نتواصل معكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج سوال هذه الأمسية. نتحدث عن الدخول المدرسي في ظل جائحة الكورونا. اليوم الثاني بعد الدخول المدرسي نتحدث عن النصائح ونعطيكم نصائح طبعا لمرافقة أبنائكم بشأن نمط الحياة الصحي والنفسي الذي عليكم اعتماده لمساعدة أطفالكم. دونك ميو ديتور بونجور ربونجور encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce voyage radiophonique. Bien sûr, on parle de cette rentrée scolaire en compagnie du docteur Nassima Bellaire, que vous connaissez déjà, médecin PMI, protection maternelle et infantile, et médecin de famille, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et périscolaires dans le Val de Marne. Bonjour docteur Nassima Bellaire.
Bonjour Mathilda.
Comment allez-vous et bonne rentrée.
Je vous remercie, c'est bonne rentrée à vous aussi.
Merci. Alors, reprendre un bon rythme de sommeil, regagner en autonomie et en sociabilité, les révisions, les repas, l'activité sportive, le port du cartable, justement pour bien vivre la rentrée scolaire, que conseillez-vous à nos amis parents?
Ben, voici là, d'abord, merci de m'avoir invité et puis merci d'avoir consacré une rubrique dans ce domaine-là, parce que la rentrée scolaire, déjà, chaque année est anxiogène, et donc donner des repères et puis, en tout cas, tenter de donner des repères et des conduites à tenir pour les parents, pour qu'ils ils amorcent l'année avec sérénité, c'est quand même bien. Mmh. Alors, j'aimerais, avant de commencer à rentrer dans le sujet des conseils à donner, d'abord dire que cette rentrée scolaire est quand même singulière, puisque il y a des millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école depuis le 1er septembre, et marquée surtout par ces règles sanitaires qui sont liées au Covid. Et cette rentrée scolaire est d'autant plus anxiogène, et justement de par ces protocoles sanitaires, de par l'anxiété de la transmission du virus. Mm-hmm. Mais les enjeux quand même forts de cette crise sanitaire sont quand même importants, dans le sens où, rappelons-nous quand même que le confinement avait quand même aggravé les inégalités liées justement à la crise sanitaire, et que la continuité de toutes les façons pédagogiques doit reprendre. Et j'aimerais rassurer les parents sur ce plan-là en tant que pédiatre, en me basant sur les recommandations des pédiatres et notamment de la Société française de pédiatrie, dit clairement que la contribution de la transmission de l'enfant est vraiment peu significative. L'enfant qui est exposé à un cas contaminant, il s'infecte moins que l'adulte, et que les enfants infectés, le plus souvent, sont non seulement asymptomatiques, mais font des formes, peu de formes sévères. Mmh. Et puis, bien sûr, pour conclure sur ce volet, les bénéfices éducatifs, sociaux, sont largement supérieurs à un éventuel risque de contamination au milieu scolaire. Mmh. Et moi, j'ai pu le constater, en tout cas en tant que pédiatre et médecin de famille, et puis conseillère municipale hier, en allant à la rencontre des enfants dans les écoles pour cette rentrée scolaire, j'ai trouvé les familles très sereines. Le port du masque est largement
respecté,
totalement respecté, les gestes barrières sont respectés, le corps enseignant et les agents communaux vraiment font tout pour que les enfants reprennent cette école
dans de bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions, tout à fait. Mmh.
Alors justement concernant cette rentrée, qui veut la fin a besoin de moyens, comme on dit. Et le corps éducatif il a préparé cette rentrée, mais des parents, enfin on parlait tout à l'heure avec une auditrice qui nous disait que hier par exemple le premier jour de la rentrée, il y avait une bousculade, les parents n'ont pas respecté cette distanciation, etc. Est-ce que c'est pas toutes les régions qui respectent bien sûr ces consignes?
Alors oui, moi de ce que j'ai pu voir, c'est vrai que les consignes étaient respectées. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais il faut voir aussi parfois les configurations géographiques, j'allais dire, de l'école. Mmh. Parfois c'est dans une petite rue, parfois l'entrée est petite. C'est vrai que là, les classes ont été échelonnées, les rentrées ont été échelonnées pour justement qu'il y ait le moins possible. Déjà, c'est fait chaque année, mais là, c'est encore plus cette mm-hmm. année, où pour justement qu'il y ait ce qu'on appelle le brassage, ou éviter que des groupes de parents ou d'élèves se rencontrent dans les couloirs. Rappelons-le mm-hmm. quand même qu'au temps du plan Vigipirate, mm-hmm. les parents n'avaient pas le droit d'accéder aux écoles. Et là, j'étais quand même agréablement surprise hier de voir que les familles ont pu accompagner surtout les petites sections maternelles. Hein, mm-hmm. On sait quelle importance mm-hmm. du point de vue de l'âge d'accompagner son enfant la première mm-hmm. fois et de le laisser à la maîtresse. Donc, alors là, ils ont pu accéder aux classes.
Alors le temps, hélas, nous est vraiment nous impose de faire un résumé concernant l'hygiène justement de vie pour une rentrée probante et puis surtout pour une année probante, je l'espère. Alors revenons un petit peu au sommet, les heures qu'il faut respecter, le réveil, la nutrition, etc. de l'enfant pour être en forme, pour entamer cette journée de travail à l'école.
Tout à fait. Alors, le but justement de savoir négocier cette rentrée scolaire, non seulement la rentrée, mais l'automne aussi, ça représente des moments de transition. Donc, il faut savoir vraiment les négocier en douceur pour éviter le stress et la fatigue accumulée. Mmh. Donc, il va falloir avoir vraiment une organisation très rigoureuse. Et ça, notamment les mamans, et puis il y a de plus en plus de papas quand même qui s'impliquent dans l'organisation de la famille. Il va falloir avoir vraiment une bonne organisation et rigoureuse pour pouvoir amorcer cette année en toute sérénité. Et le sommeil fait partie justement de ces mesures et de ces règles à respecter. Mmh. Voilà. Et justement, alors selon l'âge des enfants, évidemment, mais ça n'est que des repères. Pour les moins de 13 ans, on dit qu'on doit dormir, un enfant de moins de 13 ans doit dormir de 9 à 11 heures. Mmh. Un adolescent, donc 8 à 10 heures, on sait bien que c'est pas toujours le cas, mais les familles doivent être justement tendre vers ces normes pour que l'enfant ait pas qu'il accumule en tout cas une fatigabilité physique et mentale. Après les règles du sommeil qui sont classiques, c'est qu'il faut que la pièce soit plus chauffée,
l'environnement.
L'environnement, et il doit être à 19 degrés, que ce soit pour les tout petits que les grands. Et bien sûr, je pense que là, vous avez dû aborder les écrans. Et ça, évidemment, à chaque fois, on insiste sur le fait d'éviter les écrans, les smartphones, les tablettes, juste avant de dormir. On sait bien que maintenant, aujourd'hui, les enfants travaillent aussi. C'est leur outil de travail, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones pour aller faire des recherches. Donc là, l'idéal, c'est d'arrêter un peu ça avant 19h. Et de toutes les façons, tous les devoirs doivent normalement être bouclés avant le dîner pour pouvoir amorcer justement un sommeil tranquille.
Justement, comment répartir le temps pour les activités périscolaires telles que les activités sportives, etc. Le goûter, comment répartir le temps pour un enfant dans la journée?
Alors, moi, ce que je conseille aux parents, c'est qu'un enfant a besoin de rituels, il a besoin de repères. Mmh. Et de repères, donc, non seulement visuels aussi, il a besoin qu'on affiche, par exemple, et ça, ça marche bien, qu'on prépare un emploi du temps écrit et affiché, soit sur dans la cuisine ou dans sa chambre, pour que et préparer avec lui si nécessaire, parce que comme ça il sera acteur et prépare le planning. Et dans ce planning, on devrait inclure non seulement son planning de la semaine scolaire, mais on devrait inclure aussi le temps du goûter. Le temps de la petite une petite récréation s'il doit prendre un petit repos pour aller lire un livre ou même regarder un dessin animé, hein, tant que le temps d'exposition à l'écran ne doit pas être important. Mm-hmm. Et on doit aussi inclure dans l'emploi du temps de la semaine l'activité périscolaire, parce que ce sont des repères même visuels pour l'enfant, pour qu'il il intègre ça et que ça soit plus facile pour lui. D'avoir les perspectives de la semaine.
On parle de cela parce que beaucoup de parents, des fois, surchargent le temps de l'enfant. Enfin, quelque part, il est asphyxié par certaines activités dans une journée, donc le sport, les révisions, et puis certaines activités aussi artistiques, ce qui prend beaucoup de temps, et l'enfant, il se sent happé par toutes ces activités. Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à cela, justement? Est-ce qu'il faut faire des activités sportives durant la semaine ou une ou deux fois par semaine? L'activité aussi artistique, comment ça se passe pour qu'il puisse développer aussi son côté artistique?
Voilà, j'ai raison d'aborder ça parce que c'est important, parce que en tant que parent, on sait, on a tous envie que nos enfants réussissent, s'ouvrent au monde, fassent des activités artistiques, physiques, mais on oublie parfois que il faut lui laisser le temps de se retrouver seul, de choisir aussi ses moments de détente, et puis la façon avec laquelle il va se détendre, voilà. Il faut moi je conseille aux parents toujours de choisir bien sûr l'activité avec l'enfant et ne pas choisir à sa place, avant de l'inscrire, d'aller faire une séance d'essai, parce qu'on a vu beaucoup d'enfants qui tentent une fois, deux fois, trois fois et puis ça ne leur plaît pas, parce que ça a été parfois le choix des parents. Ou parce que par mimétisme, il veut faire comme le papa du foot et en fin de compte, il n'aime pas. Et puis, évidemment, il n'y a pas de règle dans le sens de la surcharge, combien d'heures il faut vraiment que ça soit raisonnable. Moi, je dirais deux fois par semaine d'activités périscolaires, extrascolaires, c'est déjà suffisant. Deux heures par semaine, c'est suffisant. En tout cas, après, ça dépend de l'âge. Quand l'enfant est autonome, à partir de 14-15 ans, et qu'il choisit lui-même, il va aussi lui-même se rendre à cette activité, évidemment, là, c'est son choix. Mais ne pas imposer à l'enfant trop d'activités scolaires, extrascolaires.
Le temps nous presse malheureusement, mais on reviendra les prochains jours certainement pour parler de tous ces sujets, chaque sujet à part, puisque au vu de leur importance. Juste un petit mot, docteur Nassima Bellel, par rapport aux relations, au dialogue, les relations sociales de l'enfant avec ses parents, avec ses camarades de classe. Comment tenir une relation apaisée, apaisante pour démarrer une bonne année?
Alors, la relation apaisée, elle se construit au fil des années avec l'enfant. C'est depuis l'enfance. C'est vraiment essayer de consacrer du temps à l'enfant.
Autour d'un repas, éventuellement.
Ça a l'air d'être banal, mais partager les repas en famille, notamment le petit déjeuner, qui est quand même un repas, puisque le midi, les familles, quand les parents travaillent, ne partagent pas le repas ensemble. Donc le petit déjeuner et le dîner, ce sont des moments privilégiés. Et puis le temps aussi dédié à la lecture d'une histoire, le rituel avant le sommeil. Moi, je pense que ça, ce sont des moments privilégiés, puisque les, malheureusement, quand on rentre, il y a ce rituel de devoir, douche, dîner, brossage des dents, et après, donc vraiment, c'est pendant le repas qu'il faut, et puis les week-ends, bien sûr, qu'il faut tisser ces liens, justement, de confiance et de dialogue avec l'enfant pour pouvoir, justement, favoriser l'apprentissage et pouvoir aussi dialoguer en cas de tension. Parce que les tensions, malheureusement, oui, il y en aura, et ça fait partie de la vie.
En tout cas, docteur Nassima Bilal, ce sont des sujets à prendre au sérieux, chacun à part les prochains jours, j'espère, avec vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, et vous êtes toujours présente avec nos auditeurs dans ce genre d'événements, rentrée scolaire, les vacances, des conseils tout au long de l'année. Merci, je vous dis bonne rentrée encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous, merci à Radio-Orient.
Merci, au revoir.
Au revoir, Wassila.